Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, un peu plus en podcast, on va s'intéresser à un podcast justement. Son nom, Projet Adama.
Paris, sur le parvis de la gare du Nord, ils sont plus d'un millier, t-shirts noirs sur les épaules, à être venus défiler pour réclamer la vérité au sujet de la mort d'Adama Traoré. Sa sœur, Assa, prend le micro.
La souffrance que nous on vit aujourd'hui, on veut que personne la connaisse. Donc on veut aujourd'hui que justice soit faite. Je remercie vraiment tout le monde d'être venu. On veut que le rassemblement se passe vraiment dans de bonnes conditions.
Depuis 2017, Assa Traoré effectue chaque année un discours devant la gendarmerie où son frère est décédé. Les années passent et les marches ne se ressemblent pas. Cette fois, ils sont plus nombreux et viennent aussi de mouvements écologistes. Tessir Grab est une des porte-paroles d'Alternatiba.
On partage les mêmes combats en fait. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas construire une société qui serait résiliente, durable et juste si en premier lieu on ne dénonçait pas ce système violent qui aujourd'hui tue les personnes racisées dans les quartiers.
Adama Traoré, 24 ans, est mort le 19 juillet 2016 dans la cour d'une gendarmerie du Val d'Oise, en région parisienne, après une interpellation. Je reçois les initiateurs du podcast Projet Adama, qui s'intéresse au combat pour Adama Traoré. Elisa Da Silva et Arthur Vacher, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Steven.
Alors vous avez lancé ce podcast il y a bientôt un an maintenant. Vous êtes toujours étudiant en littérature et tout est né, l'idée de ce podcast est née dans une manifestation. Racontez-moi.
Oui, tout à fait. La première fois qu'on est allé en manifestation, on a écouté les discours d'Assa Traoré. Et là, ça fait comme un déclic, en fait. Une fois qu'on entend Assa Traoré, il n'y a plus de retour en arrière possible.
Donc Assa Traoré, c'est la sœur d'Adama Traoré.
Exactement. Et elle lutte depuis presque 5 ans maintenant elle lutte pour que la vérité et la justice soient faites pour son frère. Et nous, en étant en manifestation et en étant aux côtés d'Assa Traoré, on a essayé de trouver un moyen pour faire parler ce combat-là et faire parler ceux qui l'incarnent. Et on a remarqué, en écoutant un petit peu des interviews d'Assa Traoré ou en lisant de la presse sur ce combat-là, que finalement, il y avait assez peu de possibilités de faire que cette parole se déploie. Et donc, on voulait qu'il y ait un espace qui soit consacré à cette parole-là et qu'elle puisse être entendue par un maximum de personnes et le plus longtemps possible.
Le début d'un podcast, c'est toujours quelque chose d'important. C'est là que l'on fait une promesse à l'auditeur, qu'on lui dit ce qu'il va entendre. Et pour que justement les auditeurs de RFI, de l'Atelier des médias, comprennent ce qu'est le projet Adama, je pense que le mieux, c'est justement d'écouter ce générique.
Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous allez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva.
Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Aya Sissoko.
Le générique du projet Adama, du premier épisode du projet Adama, il y a donc un an maintenant. Il y a plusieurs éléments intéressants dans ce générique. Cette phrase notamment, les personnes que vous allez entendre sont noires. Pourquoi le préciser, Arthur Vacher?
Mais parce que c'est pas évident aujourd'hui de créer des dispositifs médiatiques où on interroge des personnes concernées par l'affaire Adama Traoré, précisément parce qu'ils sont noirs. Aujourd'hui, dans les médias, en fait, c'est des blancs qui vont parler à la place des premiers concernés. Et cette identité, elle est importante, non seulement dans l'affaire Adama Traoré, mais en France, puisque c'est une identité qui existe sociologiquement et socialement. Dans notre manière de vivre, on n'a pas la même expérience, et ça, il faut le rappeler, lorsqu'on est blanc, lorsqu'on est noir. Et l'affaire Adama Traoré, sa mort, précisément, elle a eu lieu parce que c'est un corps noir qui se déplaçait à Beaumont-sur-Oise. Et c'est ça qui nous importe, nous, dans notre média projet Adama.
Autre chose intéressante dans ce générique, vous précisez que l'on ne vous entend pas. Vous êtes tous les deux blancs, justement, et vous avez souhaité faire entendre, vous avez mené des entretiens, mais présenter ça sous forme de témoignage, c'est-à-dire en retirant les questions que vous avez pu poser en menant ces entretiens. Pourquoi ?
C'était important pour nous qu'il y ait cette forme-là. Alors évidemment, c'est une fiction, c'est-à-dire que avant de publier l'épisode, on pose les questions, comme tu l'as dit, et on les enlève au montage. Mais en fait, de créer un espace où on n'entend que cette voix-là, où elle n'est pas interrompue, c'était vraiment important qu'il y ait ça et que nous, on s'efface pour qu'on laisse la place à ce discours-là et qu'il ait toute son importance et tout son intérêt.
Pour qu'il n'y ait pas de white, j'invente le terme, hein, mais de white interrupting, c'est-à-dire le fait qu'un blanc interrompe la parole d'une personne noire.
Oui, exactement. Ou même du white splaining, on pourrait dire. On pourrait
voilà, dire de cette pour faire écho aussi. Au mansplaining, le exactement. Fait qu'à chaque fois les hommes interrompent la parole des femmes. Les témoignages sont véritablement éclectiques, c'est-à-dire pour l'instant il y a 8 épisodes qui ont été publiés. Le premier épisode, c'était donc Aya Sissoko, écrivaine, championne de boxe, qui relie le combat pour Adama à celui qu'elle a mené avec sa mère devant la justice. Il y a aussi un truc intéressant dans le parcours d'Aya Sissoko, c'est qu'elle avait candidaté pour rejoindre l'école de journalisme de Sciences Po Paris, donc une grande école prestigieuse. Et je vous propose d'écouter son témoignage de l'entretien de motivation à l'école de journalisme de Sciences Po.
Moi, je me souviens, pendant mes études à Sciences Po, quand j'ai postulé pour intégrer le master de journalisme et que j'ai rencontré la directrice de ce master, donc il m'avait posé la question de « Donc, quelles sont les langues que vous maîtrisez ?» J'avais dit « Écoutez, je me débrouille très bien en anglais. Également, je parle couramment le Bambara. » Elle m'avait répondu, mais alors de manière très, très légère. Enfin, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec le Bambara. Mais c'est vrai que je m'étais sentie humiliée à ce moment-là. Oui, cette facilité, effectivement, avec laquelle on exprimait cette hiérarchisation, finalement, entre les cultures, venant quelqu'un qui est censé faire preuve d'ouverture d'esprit, qui est censé aussi former des jeunes, conscientiser d'autres individus, en plus sur un métier qui est tout de même essentiel, puisqu'il s'agit de journalisme.
Elisa Da Silva, on est vraiment dans ce qu'est un podcast, c'est-à-dire qu'on est dans l'intime, avec l'idée que les gens se confient, qu'il y ait une maïeutique, un accouchement réellement de ce qu'ils ressentent. Comment est-ce que vous avez essayé tous les deux de vous positionner justement dans la démarche d'interview sur ces questions-là ?
Nous, on a essayé d'être le plus clair possible avec nos intervenants et de leur dire tout de suite qu'ils étaient complètement libres de, à n'importe quel moment de l'interview, de dire qu'ils étaient pas à l'aise avec une question ou que ils préféraient l'aborder dans un autre angle que celui qu'on proposait. Et à tous les moments de la publication, à la production, les intervenants ont une main sur ce que nous, on va produire. C'est-à-dire qu'on leur envoie toujours avant publication pour validation. Et l'idée, c'est aussi que eux puissent apporter de leurs idées, de leurs expériences en disant « Bon, ben voilà, moi j'aimerais bien qu'on parle du combat Adama sous cet angle-là parce que c'est ce avec quoi je suis à l'aise. Donc c'est comme ça qu'on a procédé et l'idée, c'était d'établir vraiment une relation de confiance avec nos intervenants.
Et quand vous les contactez, justement, ils s'expriment tous bien volontiers, ils sont enchantés presque que vous les sollicitiez ou alors au contraire, il faut les convaincre et leur donner des éléments pour leur donner envie.
Alors bien sûr, c'est à nous de les convaincre parce qu'on est blancs, on est là en manifestation, mais ils nous ont pas tous vus et donc c'est important que eux, ils comprennent que notre démarche elle est bienveillante, que on est avec eux, on est là pour demander des justices et vérité pour Adama Traoré et pour documenter ce combat. Avant tout, en fait, notre démarche, c'est de documenter, d'archiver, mais de surtout pas remplacer les premières luttes, les luttes concrètes qui sont la manifestation et le soutien, quel qu'il soit, auprès du comité pour Adama Traoré.
En fait, vous voyez un peu le podcast comme à la fois une mémoire sonore, mais une façon de raconter l'histoire qui est en train de s'écrire. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est un peu l'avantage du podcast, c'est que c'est à la fois vraiment dans l'actualité, parce que on est avec des gens qui vivent au présent, et à la fois ça permet de conserver et d'être dans un temps plus long. Et c'est ça qui nous a aussi plu dans la forme du podcast.
Ouais. Pour nous, la forme du podcast, elle est liée, en tout cas aujourd'hui, à une forme engagée. Et on le voit dans les podcasts qui sont le plus écoutés, on voit qu'en fait c'est cette forme-là qui a peut-être, en tout cas selon nous, un sens avec l'engagement aujourd'hui, et qu'elle est, en fait c'est parce qu'elle est rapide à fabriquer cette forme, parce qu'elle demande peu de moyens, mais aussi parce qu'il y a une indépendance et une autonomie en fait par rapport aux médias mainstream. Nous, on n'a pas de producteur, de caméraman, on monte nous-mêmes les épisodes, ce qui fait que cette répartition du travail qui pourrait aveugler aussi avec des fantasmes sur ce qui se passe aujourd'hui, elle n'existe pas. Et nous, comme on est de toutes les étapes, ça crée une forme qui est engagée.
Vos podcasts sont hébergés sur SoundCloud et ils sont également mis en avant sur le site de la revue Regard, donc sur regard.fr. Est-ce que l'idée aussi de tout cela, c'est quand même aussi d'avoir la légitimité d'un média derrière? Pourquoi ne pas simplement l'avoir mis sur SoundCloud?
Alors c'est moins une question de légitimité qu'une question de ramener des auditeurs. C'est-à-dire que nous, on s'adresse d'abord à des personnes qui sont concernées par l'affaire Adama Traoré, et c'est ça notre premier but. Et le second, c'est aussi de ramener des personnes qui sont peut-être pas concernées, mais en tout cas qui ne demandent qu'à être convaincues. Et donc c'est pour ça que le travail de Regard, nous, on est des admirateurs de leur travail, et donc de pouvoir collaborer avec eux pour qu'on soit diffusé sur leur site, et que du coup nos interviews et la parole d'Aya Sissoko, de Miguel Chema, de Mahamadou Camara soient entendues par leur public de gauche, d'intellectuels, et pour la plupart blancs, c'était important pour nous.
Et justement, j'ai lu quelque chose d'intéressant dans une interview que vous avez donnée. Vous expliquez que vous ne choisissez pas vraiment les gens que vous interviewez, que d'une certaine façon ils s'imposent à vous. Comment ça se passe justement ce moment entre... Vous discutez tous les deux, vous vous dites « ce serait peut-être bien de recevoir un tel ou une telle » ou comment ça se passe?
Oui, on en discute et puis après c'est aussi beaucoup des rencontres en manifestation. Bon, en ce moment c'est plutôt par le biais des réseaux sociaux évidemment, mais oui, on en discute et puis comme tu l'as dit tout à l'heure Arthur, il y a l'idée d'avoir une pluralité de discours, donc on va aussi chercher des personnalités, des gens qui viennent de milieux très différents pour avoir, on peut pas avoir la prétention d'être exhaustif, mais pour avoir une diversité dans les discours qu'on va proposer.
Ça s'impose à nous parce que c'est le travail du comité. Qu'il mène depuis presque 4 ans, qui a fait en sorte que le combat Adama touche plein de sphères. Et nous, on est aussi... donc évidemment, ça part de notre projet que d'interroger une multitude de discours, mais c'est aussi le résultat de leur travail depuis 4 ans, parce qu'ils sont allés dans presque tous les villages de France, parce qu'ils ont fait des alliances, et elle parle bien d'alliances, Assa Traoré, avec les Gilets jaunes, avec les luttes féministes, avec les écologistes, et c'est ça qui a fait que le combat Adama Traoré aussi, aujourd'hui, peut avoir des répercussions dans l'industrie du cinéma, dans la littérature, comme dans le monde médical.
Assa Traoré, dont vous venez encore une fois de mentionner le nom, la sœur d'Adama Traoré, est une femme forte qu'on pourrait qualifier de solaire. Vous ne l'avez pas encore reçue. Est-ce que c'est pour bientôt? Je vois dans vos regards que vous interrogez. On peut le dire, on peut pas le dire. Ça va se faire?
En fait, si ça doit se faire, ce sera à la fin du projet Adama. Je sais pas ce que t'en penses, Élise. Enfin,
oui. Après, on a interviewé par exemple Almami Kanouté, qui est membre du comité Vérité et Justice pour Adama. On a interviewé Mahamadou Camara, qui est aussi proche du comité Vérité et Justice pour Adama, puisqu'il se bat pour la vérité autour de son frère. Et donc, en fait, on a eu des discours de gens de l'intérieur de ces comités qui expliquent bien les rôles, le fonctionnement, etc. Et Assa Traoré, évidemment, c'est c'est la figure aujourd'hui du comité Vérité et Justice pour Adama, mais aussi de l'antiracisme, en fait. Et donc oui, ce sera à la fin du projet Adama si elle intervient.
Mais c'était important pour nous, et en fait c'est pour ça que, par exemple, on n'a pas amené cette interview pour ouvrir le projet Adama, ni au milieu après les manifestations en juin 2020, parce que pour nous c'était important d'individualiser la foule des manifestants, parce que donc voilà, les médias traitent de l'affaire Adama Traoré avec une seule figure, Assa Traoré. Ils n'interrogent pas Youssef Brakni, Almami Kanouté, qui sont ses bras droits dans le comité, en fait les personnes qui font partie du comité Adama, ni non plus la foule qui était là devant le TGI, qui est là depuis 4 ans maintenant, chaque année à Beaumont-sur-Oise, et c'était notre démarche en tout cas.
Dans chaque épisode, vous demandez justement aux interviewés ce qu'ils pensent d'Assa Traoré, au-delà même de son combat, mais d'elle, de la femme qu'elle représente. Pourquoi justement parler, enfin, ce serait presque intéressant dans l'épisode où vous recevrez Assa Traoré de lui faire écouter, de lui faire entendre ce que les uns et les autres que vous avez interviewés pensent d'elle.
En fait, c'est pas tellement ce qu'ils pensent d'elle, mais plutôt quelle est leur relation à elle, en fait. Parce que pour beaucoup, ils la connaissent, ils en sont plus ou moins proches. Et donc, ça permet aussi de contrer l'image qu'on a pu avoir aussi dans beaucoup de médias où elle et son combat ont souvent été assez criminalisés. Enfin, Adama Traoré, il a été beaucoup criminalisé. Et donc, de rétablir l'idée que, en fait, c'est une famille. Et c'est pas seulement... alors, c'est devenu un combat politique par la force des choses, mais c'est avant tout le combat d'une famille qui cherche à savoir la vérité. Et c'est le combat d'une femme qui lutte pour son frère. Et c'était important de montrer ça.
Tous nos intervenants n'ont pas rencontré Assa Traoré. Et par exemple, Romuald Fonkoua, qui est président du conseil scientifique à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, lui, il est pleinement engagé dans le combat pour Adama Traoré. Pourtant, il n'a pas manifesté encore. Et c'est pas comme ça que lui voit son engagement. Et c'est intéressant parce que ça montre à quel point le comité a réussi à avoir une portée sur une multitude d'espaces en France.
Une des questions qui clôt souvent les entretiens, c'est de savoir si vos interviewés ont un message à faire passer aux Blancs. Pourquoi cette question ? Et y a-t-il des réponses qui vous ont clairement surpris ?
Ben, je pense que c'était... Enfin, pour nous, on s'est dit que c'était intéressant de poser cette question parce que c'est vrai que c'est une question qui est assez peu posée. Et est-ce qu'il y a des réponses qui nous ont surprises ? Je ne crois pas. Il y a des réponses qui sont très différentes les unes des autres. On a des intervenants qui vont dire « Ben, moi, j'ai pas particulièrement de message à faire passer aux Blancs. Moi, la différence... je pense que c'est pas une question d'être blanc ou noir. » Et il y en a d'autres qui nous disent clairement que, ben voilà, ils ont un message à faire passer, que il y a un problème avec la manière dont on conçoit la blanchité aujourd'hui en France. Et donc, faire intervenir cette question justement de la blanchité dans le discours médiatique, c'est important parce que ça permet donc à ceux qui subissent le racisme de pouvoir poser cette question, et surtout, ça renvoie la balle à ceux qui se disent que bon, bah finalement, le racisme en France, il y en a pas, etc. De dire, bah en fait, comment est-ce qu'on pense ce privilège aujourd'hui en France ?
Je vous propose d'écouter un autre extrait du podcast Projet Adama. Un autre extrait qui, cette fois-ci, donne la parole à Djigui Diarra, comédien et réalisateur, qui raconte sa première expérience professionnelle dans le cinéma. Il passait les auditions pour participer à la série policière française Julie Lescaut.
On a été plus de 200 à passer le casting. Bon, j'ai été pris, j'ai été ravi comme un fou parce que je me disais, bon, je suis pas si nul que ça. Donc j'étais content, etc. Et j'arrive sur le tournage, j'ai très très vite déchanté parce que j'ai compris que mon profil, en tout cas, en cinéma français, c'était un profil très apprécié pour ce qui était la sauvagerie, quoi. Et j'avais une partie à faire à la Goutte d'Or, puis ils ont vu qu'ils avaient oublié de caster un autre jeune pour une autre partie. Bah, j'avais une boucle d'oreille à l'époque. Ils m'ont dit, bon, bah, Djigui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'oublier, on va enlever ta boucle d'oreille, on va te donner un suite à capuche et on va te mettre à barbet. C'est comme si, en fait, tous les noirs sont les mêmes, quoi. Enfin, voilà. Par quoi je suis passé, c'est quelque chose de raciste et, il y en a eu d'autres, bien entendu, mais c'est ça en particulier qui a fait que je suis déterminé à raconter mes propres histoires, quoi. Voilà.
La représentation des Noirs dans les médias et dans les productions culturelles en France est également un des fils rouges un peu de chacun des épisodes de votre podcast Projet Adama. Est-ce que vous avez aussi l'impression que les choses sont en train de bouger, que les lignes sont en train de bouger actuellement ?
Bien sûr, ça avance. On reste quand même assez pessimiste parce que ça met du temps et c'est pour ça que voilà, c'est aux Blancs aussi de s'emparer de ces questions-là, parce que c'est des Blancs qui dirigent l'industrie du cinéma, qui dirigent l'industrie de la musique, qui sont partout, parce qu'on est en France, et que voilà, c'est comme ça. Et tant qu'on fera pas ça, on pourra pas changer les choses.
Elisa da Silva, une réaction ?
Oui, non, je suis très d'accord avec Arthur. Et c'est vrai que... En fait, comme le dit Djigui, le fait de s'emparer de la caméra et de dire que ben on va choisir de raconter nos propres histoires, ben je pense que c'est le début du changement, c'est le début d'un nouveau regard en fait. Et ça c'est intéressant.
Le projet Adama a été classé parmi les 10 meilleurs podcasts de l'année 2020 du magazine français Télérama. J'imagine que c'est une grande satisfaction pour vous. Est-ce que ça a aussi changé des choses pour votre projet ?
Je ne sais pas ce que ça a changé. En tout cas, nous, on est satisfaits parce que, à travers notre podcast, on parle du combat Adama dans un des journaux les plus lus de France, c'est-à-dire Télérama. Et c'est ça qui compte, c'est de se dire que, ben, finalement, nous, on est contents et on a réussi parce que on réussit à faire en sorte que des grands médias parlent du combat Adama et en parlent avec un regard qui soit positif. Et ça, c'est ça qui nous intéresse.
Votre projet, donc on disait tout à l'heure en introduction, vous êtes étudiant en littérature. Ce projet n'est pas un projet journalistique, même si c'est un média. Qu'est-ce que vous aspirez à faire plus tard ?
C'est des questions qu'on se pose, évidemment, mais c'est pas les questions qui nous ont traversées lors de la réalisation de ce projet. Voilà, Elisa l'a dit, c'est que ce projet Adama, il est né d'une nécessité suite à une manifestation il y a 2 ans. Et c'est comme ça, donc on essaye de le porter jusqu'au bout et de montrer à quel point il faut s'emparer de ces questions-là. Et après, nous, bien sûr, dans l'avenir, on aura plein de choses à faire, enfin, mais c'est pas la question du tout.
Et justement, quelles sont les suites du projet? Comment voudriez-vous qu'il évolue dans les mois à venir?
En fait, on conçoit ce projet comme un documentaire audio. Donc, c'est-à-dire que les discours se répondent les uns aux autres aussi, ils sont complémentaires finalement. Donc, on l'imagine pas non plus à l'infini. Il y a, on veut pas faire des interviews pour faire des interviews. Hein. L'idée, c'est de vraiment avoir une parole qui soit singulière et qui dise une vérité qui soit individuelle et à la fois qui évidemment recouvre à quelque chose de collectif puisque ça renvoie évidemment à la lutte du comité. Donc pour le moment, on continue les interviews et on verra par la suite ce que ça donne.
Et justement, avez-vous l'impression que ces voix et ces messages commencent à porter et de mettre un petit peu votre pierre à l'édifice ?
Mais c'est ce qui est intéressant avec la forme du podcast, c'est que bien sûr on a des retours sur les réseaux sociaux ou de personnes qu'on croise, mais ce qui importe dans le podcast, c'est qu'on est autonome et qu'on n'attend pas du public qui nous écoute, parce que c'est différé. Et donc voilà, on publie un épisode sans attendre quoi que ce soit de notre public, parce qu'il peut pas interrompre la conversation, il peut évidemment faire pause, mais il peut pas nous parler pendant que vous parlez aux intervenants. Et c'est ça la force du podcast, c'est que c'est une parole qui s'impose à vous, c'est une parole que vous allez entendre, et c'est aussi, avec Elisa, on en parle beaucoup, mais c'est une manière de critiquer le paradigme de la discussion aujourd'hui, c'est-à-dire que on considère que discuter, c'est important, opposer des points de vue, les faire entendre sur des médias, des plateaux télé ou dans les journaux, c'est important, c'est comme ça qu'on peut faire avancer la pensée, et nous on pense que on peut proposer d'autres alternatives. Et surtout, en particulier, lorsqu'on parle du combat pour Adama Traoré, c'est-à-dire qu'il y a des paroles qui s'imposent, vous les entendez pendant 20 minutes, et vous aurez le temps de réfléchir, de lire des livres, de discuter entre vous, mais en tout cas, sur ce temps-là, c'est un monopole qu'on tient à garder.
Merci Elisa Da Silva, Arthur Vacher.
Merci
d'être venu dans l'atelier des médias. Votre podcast Projet Adama est disponible sur le site regard@fr et toutes les plateformes de podcast. À très vite. C'est bientôt la fin de cette émission et comme chaque semaine, le moment de Mondo Blog Audio qui donne à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Le 24 janvier, ce dimanche, donc, l'UNESCO célèbre la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Justement, écoutez la Mondo Blogueuse togolaise Afi Afoya. Elle lance un plaidoyer pour la culture africaine. Elle enjoint les Africains à porter plus haut les couleurs du continent avec estime et audace et à défendre fièrement leurs origines en se réappropriant leur identité. Pour Afi, il est urgent de ne plus se fondre dans la culture des autres, mais plutôt de se réapproprier sa culture authentique.
Seuls nous, Africains, avons l'habitude de nous glorifier, de maîtriser la culture des autres, de parfaitement parler leur langue, de croire en leur religion, d'adopter leur style vestimentaire, de connaître leur art culinaire. Mais s'intégrer, ce n'est pas se comporter comme un caméléon, en se fondant dans le décor de l'autre. Pourtant, nous continuons à absorber la culture d'autrui tout en reniant la nôtre. Cela s'explique peut-être par notre passé colonial, mais quoi qu'il en soit, cette attitude nous dessert. Par exemple, je n'ai jamais compris que certains parents en Afrique interdisent à leurs enfants de s'exprimer en langue maternelle à la maison. Aussi, connaissez-vous un Américain ou un Européen qui s'appelle Mamadou Kwaku Kamara ? Je parle évidemment de ceux qui n'ont pas d'origines africaines. De l'autre côté, combien sommes-nous à porter des prénoms occidentaux ? Combien d'Africains portent exclusivement des prénoms africains ? Je ne vois pas pourquoi j'éprouverais de la gêne à dire que je m'appelle Afi, qui est le prénom que l'on donne aux natifs du vendredi en ethnie Évé chez moi au Togo. Moi, ce que je veux, c'est être en phase avec mon prénom togolais, quel que soit l'endroit où je me trouve, être fière de pouvoir parler couramment ma langue maternelle et savoir cuisiner des plats de chez moi. L'Afrique a des problèmes plus sérieux que les prénoms ou les habitudes culinaires, certes, Mais notre déni de notre identité africaine est symptomatique de notre domination continuelle par les autres. Et cela est un problème. Nous avons longtemps été convaincus que tout ce qui vient de chez nous est laid, pas présentable et pas conforme aux normes. Mais moi, j'ai plutôt honte à chaque fois que je cède aux normes dominantes dont le seul but est de fabriquer une société uniforme. Si nous désirons réellement le développement de notre Afrique, si nous voulons la voir reprendre son envol, nous devons commencer par lui montrer plus d'amour et d'intérêt à travers l'acceptation et l'appropriation de qui nous sommes. Et même si ce discours peut paraître idéaliste, je veux continuer à croire en une jeunesse africaine ancrée dans son africanité.
Mondoblog.org.
C'était Afi Afoya, mondoblogueuse togolaise, passionnée d'art et de culture, notamment de culture africaine. Rendez-vous sur son blog pour lire ses billets sur l'art culinaire africain, la médecine traditionnelle sur le continent ou encore l'organisation des villes et des quartiers en Afrique. C'est la fin de cette émission, disponible à l'écoute sur toutes les plateformes de podcast, Castbox, Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous des étoiles sur ces applications d'écoute, ça nous permettra d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission, ainsi qu'à Camille Deloche qui a piloté Mondoblog Audio. Rendez-vous dans une semaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.